On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des Capulines.
Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les halls d'immeubles, il faut nettoyer.
Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité.
En ce qui concerne le problème de l'emprisonnement des mineurs, l'emprisonnement lui-même s'avère très souvent un mal plutôt qu'un remède. Il est traité comme délinquant. Et par là même, il se sent délinquant. Il devient délinquant.
Si tu joues aux policiers, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés.
Sarkozy, Jospin, Badinter et Deligny. Les questions de sécurité, tout le monde a quelque chose à en dire. Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. La sécurité, l'insécurité, le sentiment d'insécurité. Pendant la campagne présidentielle de 2002, tous les discours se sont focalisés sur ce thème, avec les résultats qu'on connaît. Le Pen au deuxième tour, Sarkozy au gouvernement et des concepts sécuritaires qui passent dans notre langage courant. Vidéosurveillance, fichage ADN, centre éducatif fermé, tolérance zéro, démission des parents et suppression des allocations familiales, expulsion des sans-papiers et des catégories de citoyens montrés du doigt. Prostituées, toxicomanes, jeunes délinquants, étrangers, chômeurs, syndicalistes. À moins d'un an des nouvelles élections, où en est-on ? La France a-t-elle toujours peur ? Faut-il choisir entre prévention et répression ? Comment ça marche l'intervention sociale ? Et surtout, quand les discours sont terminés, comment ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce qui est fait et qui fait quoi ? On est trois pour vous accueillir aujourd'hui. Marco, à côté de moi, Jean-Jacques derrière sa bulle, et moi, Guillaume. Toutes ces questions, nous vous proposons de les aborder avec des personnes qui ont quelque chose à dire. Comme aujourd'hui avec notre invité Laurent Puech, président de l'ANAS, l'Association Nationale des Assistants Sociaux. Nous allons parler du projet de loi de prévention de la délinquance présenté par M. Sarkozy, qui sera discuté bientôt à l'Assemblée Nationale.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Alors bonjour Laurent Puech.
Bonjour.
Alors on a une tradition quand même dans cette émission, c'est qu'avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, il y en a un de nous, soit Jean-Jacques, soit Marco, soit moi, qui apporte un petit sujet sur lequel on discute, qui n'a pas forcément de rapport avec le sujet qui vous amène. Et après on rentrera dans le vif du sujet. Aujourd'hui c'est toi Marco ?
Oui, c'est moi. Bonjour Laurent. Donc aujourd'hui, ben oui, j'ai envie de réagir. Simplement, c'était une émission sur une radio nationale néanmoins concurrente.
On peut la citer peut-être.
On peut la citer, oui, c'est France Inter. Donc il y a
une petite radio, excusez-moi.
Oui, elle débute. Donc il y a un jeune homme qui s'appelle Guy Carlier, qui est chroniqueur de métier, qui donc tous les matins régulièrement raconte différentes histoires. Ce matin-là, nous raconte comment François Bayrou, que tout le monde connaît, hein.
Ouais, c'est un mec de Pau, je crois, c'est ça.
Oui, voilà, du Béarn. a quand même eu, a eu le courage pour certains, en tout cas, de gifler un jeune garçon qui faisait ses poches. Et donc, Guy Carlier développe un peu cet acte politique. Pour terminer, quand même, sacré Guy, racontant que le jeune garçon a aujourd'hui 15 ans, accusé d'agression sexuelle, et donc, développant la dérive de ce jeune homme, à une absence d'action, d'activité dans les quartiers, etc. Donc moi, ce qui me fait réagir, c'est comment on peut quand même stigmatiser, puisque c'est un mot qu'on emploie souvent, sur ce jeune homme qui est devenu agresseur sexuel, oui ou non, on n'en sait rien. Est-ce qu'on peut le dire sur la radio nationale, telle qu'on vient nous-mêmes de le dire ? Enfin voilà, je trouve qu'on a certaines responsabilités, et je trouve que cette méthode-là est assez insidieuse de beaucoup de choses actuellement, et notamment ce qui nous concerne, ce qui nous motive et ce qui nous rassemble.
On pourrait donc dire que ben, Guy Carlier a un petit peu permis aux copains de ce jeune homme de connaître ses agissements. Et nous, on peut critiquer Guy Carlier quand il fait ça. Et pourtant, on fait la même chose. Mais on a quand même, et ça vous le savez, une excuse. C'est que nous, on est à Montpellier et que ce jeune homme, je sais pas où ça se passait, mais c'est pas à Montpellier. Donc les copains du jeune homme l'entendent pas. Donc ce que fait Guy Carlier qui est pas bien, ben nous, on le fait, mais c'est moins grave puisque on n'est pas en train de le stigmatiser. Personne ne le reconnaît. Non, sans blague, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on est obligé de réagir parce que c'est quand même exactement ce dont on va parler là, c'est comment quelqu'un peut se retrouver enfermé dans une étiquette, comment quelque chose qui est un acte, évidemment, dans ce cas-là, sans doute répréhensible, ne doit pas pour autant coller au basket. Et en tout cas, comment on arrive à sortir de là. Et c'est clairement pas quand tout le monde est au courant des agissements de quelqu'un qu'on lui colle sur le front l'étiquette, là, dans le cas d'agresseur sexuel, qu'on a des possibilités de mettre ça de côté pour pouvoir passer à autre chose.
Laurent, vous aviez suivi, là, cette histoire de la gifle éducative de...
Oui, comme un peu tout le monde, j'avais vu ce magnifique moment au ralenti plusieurs fois et sous plusieurs angles. Voilà, du coup, moi, ça m'interrogeait sur les vertus et l'efficacité éducative de la gifle, finalement.
Marco, c'est fini ?
Oui, ça va mieux.
Eh bien, en tout cas, merci.
Merci à vous.
Bon, la prochaine fois que Guy Carlier parle, tu restes vigilant, on est prêts, nous, à le dénoncer tout le temps.
Mais je téléphonerai.
C'est là, je vais en prendre au faible, mais bon.
Wakadi ? C'est quoi ça, Wakadi ?
Wakadi ? C'est un acronyme, c'est les premières lettres de « on a quelque chose à dire ». Tu vois le délire ?
Bon, Laurent Puech, je vais vous laisser vous présenter. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez président national de l'ANAS, l'Association nationale des assistants sociaux. Peut-être vous pouvez vous présenter un peu plus précisément, s'il vous plaît.
Merci de cette forme de politesse. Écoutez, moi je suis assistant social en polyvalence de secteur au quotidien et j'occupe par ailleurs les fonctions en effet de président de l'Association nationale des assistants de services sociaux qui est très investi sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est le projet de loi prévention de la délinquance depuis 3 ans avec plein d'autres organisations hein, évidemment et qu'on retrouve ici sous forme d'un collectif à Montpellier, mais au niveau national il y a des croisements et des convergences d'actions qui existent.
Alors justement, puisqu'on parle de ce collectif, il y a eu une mobilisation, c'était le 10 octobre je crois. On y était, on a pris un peu de son, peut-être on peut écouter le reportage et ensuite on vous posera quelques questions.
Ouais, en quelques mots, on est donc dans la manifestation avec des gens qui se sentent concernés contre le projet de loi de prévention de la délinquance de Sarkozy. Pour quelle raison vous êtes là ?
Je suis là parce que je suis assistant social dans la protection de l'enfance, dans une association de protection de l'enfance. Et là, ce projet de loi, pour moi, remet en cause totalement mon métier. Moi, ce qui me gêne le plus en priorité, c'est toutes les atteintes au secret professionnel. Puisque ça va anéantir totalement notre manière de travailler et notre crédibilité auprès des personnes.
Ça veut dire que vous n'aurez plus droit au secret ? Comment ça va marcher ? Vous serez obligé de donner des informations sur les personnes qui viendront vous voir ?
Alors, on aura toujours notre secret professionnel, mais le gouvernement, subtilement, a ajouté une possibilité supplémentaire de lever notre secret professionnel, c'est-à-dire pour toutes les personnes que l'on recevra et qui auront des difficultés sociales, éducatives, financières, on sera obligé de signaler ces personnes au maire de leur commune qui sera censé les aider. Donc ça part, la façon dont c'est tourné, ça a l'air astucieux, ça a l'air super pour les personnes, quelqu'un d'autre en plus pourra les aider, mais là on va atteindre totalement notre secret professionnel, c'est-à-dire on va devoir donner concrètement la liste de toutes les personnes avec qui on travaille, alors qu'avant ces personnes on leur garantissait un secret professionnel, la garantie de tenir de leur vie privée. Et là, ça va totalement disparaître. Donc les gens ne vont plus nous confier tout ce qu'ils nous confient actuellement. Donc comment faire un entretien avec une mère de famille qui, par exemple, a été violentée par son mari, mais qui a encore un peu de difficulté à porter plainte, avec qui il va falloir trouver un foyer d'hébergement le temps qu'on le trouve. Si, dès qu'elle me dit ça, je suis tout de suite obligé de le signaler au maire de sa commune qui pourra déclencher une opération, quelque chose. Le mari donc s'en rendra compte tout de suite, pourrait éventuellement agresser de nouveau sa femme alors qu'on n'aura pas encore eu le temps de la protéger. Plein de choses comme ça.
D'accord. Est-ce que ce texte porte sur autre chose que sur le secret professionnel ?
Ah oui, il porte sur plein de choses, sur la vidéosurveillance, les financements de la vidéosurveillance, sur les problèmes qu'il peut y avoir dans l'éducation nationale. Donc à chaque fois, il le tourne d'une manière subtile de dire oui, il y a des problèmes, donc on va trouver des solutions. Et à chaque fois, ces solutions, c'est de la répression, c'est des forces de police, c'est la judiciarisation.
Et pourtant, c'est un projet de loi qui s'appelle de prévention de la délinquance. Vous trouvez que c'est un peu usurpé comme titre ?
Ah oui, oui. Ben Sarkozy est très subtil. Sarkozy, c'est le ministre de l'Intérieur. Il ne fait pas de la prévention, il fait de la répression. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on n'a pas à obéir à Nicolas Sarkozy, qui n'est pas notre ministre de tutelle.
D'accord. Merci beaucoup.
L'éducation ! Éducateur ! Instituteur !
Alors c'était le 10 octobre dernier à Montpellier, je crois qu'il y avait 750 personnes, c'est ça ?
Oui, un record depuis le début du mouvement à Montpellier en tout cas.
Et le début du mouvement, donc, qui s'initie ?
C'était en début 2004, fin 2003 et début 2004. Et donc, il y avait eu plusieurs temps de manifestations, notamment à Montpellier, depuis.
D'accord. C'était le rapport Benisti, c'est ça ?
Alors, le premier, c'était le pré-projet de loi de Nicolas Sarkozy, déjà. Hein, c'est-à-dire que c'était un texte qui était travaillé dans des instances absolument pas transparentes. C'était au niveau du cabinet de Nicolas Sarkozy. Et il y avait un texte qui se travaillait, il y a pu avoir des fuites qui sont sorties, donc on n'était même pas sur l'idée d'un projet de loi, c'était un pré-projet qui n'était même pas présenté, qui n'était pas commandé par le Premier ministre de l'époque, qui était Jean-Pierre Raffarin. Et donc on a appris qu'existait ce texte qui ressemble on va dire qu'il a empiré avec le temps, mais que déjà il y avait la trame du texte actuel qui est aujourd'hui un projet de loi et qui a déjà été voté par le Sénat et qui vient devant l'Assemblée autour du 20 novembre.
Alors on va rentrer peut-être un peu dans les détails. On a entendu là dans le reportage qu'en fait il y avait une expression qui était usurpée, notamment la prévention de la délinquance. Mm-hmm. Donc c'était l'assistance sociale qui intervenait dans le reportage qui disait ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
De l'assistance sociale ou parce que là, je peux durer 2 heures sur l'assistance sociale si vous voulez. Non. Sur le projet de loi, ben oui, ce projet de loi, c'est un terme qui est utilisé de prévention de la délinquance. En réalité, c'est un projet de loi qui ne préviendra pas la délinquance. D'ailleurs, toute l'argumentation pour justifier ce projet de loi, elle se situe du côté de la protection de l'enfance assez bizarrement. C'est-à-dire que ce projet, on pourrait dire que s'il avait des arguments valables pour défendre le fait qu'il va être utile contre la délinquance, ce serait simple à argumenter de ce côté-là. Le fait est, c'est que les arguments qu'on entend du côté du ministère de l'Intérieur, qui sont depuis repris par le gouvernement, c'est tout un argumentaire qui se développe autour de la protection de l'enfance. Il faut que les enfants soient aidés, il faut pas... Et ça va en effet prévenir la délinquance. Si ce n'est que ce qui est dans le texte, c'est pas fait en effet pour aider les enfants qui sont en difficulté, que ce soit par les partis qui réforment l'ordonnance de 45 une nouvelle fois, ou par les parties qui concernent, en effet, ce qu'a dit l'assistance sociale en question sur le passage d'informations, le maillage des réseaux d'informations entre la CAF, l'école, les services sociaux. C'est pas des éléments qui sont faits pour prévenir la délinquance, c'est des éléments qui sont plutôt faits pour contrôler les populations.
Alors, mais c'est quand même pas un plus d'imaginer de pouvoir s'échanger des informations entre professionnels. J'imagine que c'est l'argument que doit développer Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a peut-être de temps en temps un manque de concertation et que la conséquence de ce manque de concertation, c'est un problème, un mauvais suivi social. Alors j'imagine leur argument, c'est celui-ci. Comment expliquer pourquoi on s'oppose à ça ?
Alors, en effet, déjà, le descriptif de l'existant fait par Nicolas Sarkozy est proprement catastrophique. Et du coup, on peut l'énoncer avec force. C'est-à-dire qu'il nous explique, en gros, dans ce pays, il y a des professionnels qui agissent, mais qui communiquent pas entre eux, qui se coordonnent pas, qui à aucun moment partagent une analyse, une évaluation, qui jamais pensent en termes complémentaires des interventions sociales. C'est tout à fait faux. Le monde a existé avant Nicolas Sarkozy. Le travail social a existé et existe sans Nicolas Sarkozy, avec des temps de coordination, des temps de partage d'informations, si ce n'est que c'est fait dans des contextes qui sont aseptisés, entre guillemets. Pour dire aseptisés, l'objectif d'un partage d'informations, c'est que soit dans le but d'aider une famille, une personne, une famille. C'est pas du tout dans le but que la personne soit sous un contrôle permanent avec des sanctions à la clé. C'est vrai que ce projet de loi amène finalement à penser qu'il y a un problème majeur qui est le passage de l'information dans ce pays, qu'en résolvant ça, on va amener une meilleure protection des personnes. Nous, le constat qu'on fait et le constat qu'on peut amener avec de l'expérience, c'est le fait que...
Je t'enlève le stylo parce que ça tape sur la table.
C'est le fait qu'en effet...
Je t'enlève le briquet aussi, ça tape aussi sur la table.
Enlève lui les mains.
Tu peux mettre les mains sur la tête ?
Je me mets stressé avec cette organisation. C'était trop cadré pour moi. Donc, c'est dire qu'il y a de l'expérience, il y a des professionnels qui savent faire et qui, par contre, manquent furieusement de moyens.
Pour revenir sur ce que tu disais là, c'est-à-dire le fait que le constat qui est fait par le ministère est complètement erroné. On est très très loin de constater les mêmes choses sur le terrain, a priori. Comment il a été fait ce constat ? Est-ce que vous, organisation professionnelle, avez été invité à réagir à ça ? Comment ils peuvent être autant à côté de la plaque ?
Alors en fait, c'est relativement simple d'arriver à être à côté de la plaque. Ils sont, ça dépend de quelle plaque on parle. Si c'est l'existant et le terrain, ils sont à côté de la plaque. Par contre, ils sont je dirais à l'intérieur d'une plaque, qui est celle d'une représentation qu'ils ont, d'une idéologie, d'une perception de la réalité, de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ce projet de loi, il n'est pas né par la concertation, le partage, l'échange, l'évaluation de l'existant. Il est né à partir d'une conseillère technique qui a été un maître d'œuvre du projet auprès de Nicolas Sarkozy. Et qui a construit ce projet à partir d'une représentation de la société et une vision idéologique de la société. À partir de là, il n'y a pas eu du tout de temps de concertation réelle. On a bien eu des contacts et quantité d'organisations et syndicales et professionnels et d'employeurs ont eu des contacts avec le ministère de l'Intérieur, mais sur des temps qui n'étaient pas des temps de concertation. Et chaque fois, systématiquement, on a eu en face un discours qui disait « Mets tel enfant dans telle situation sans qu'on puisse jamais » réellement identifier la situation, parce qu'on pourrait en faire l'analyse et peut-être s'apercevoir que ce que nous raconte Nicolas Sarkozy, là comme ailleurs, comme à Bobigny par exemple, ben, ce qu'il dit est la réalité, il y a un grand écart entre les deux. On a eu des exemples à forte valeur, on va dire, émotionnelle, et en réalité, c'est tout. C'est-à-dire, on nous sort un exemple pour justifier d'un ensemble qui est bien plus différent de cet exemple-là.
Laura, là, on a parlé de l'esprit donc dans lequel a été fait ce projet. On a parlé d'un point qui concernait notamment le secret partagé. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails, notamment sur parce que ce projet ne traite pas que de ça, ne traite pas que du secret partagé. Non. On l'a déjà entendu. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'inventaire de ce projet?
On va dire qu'il y a plusieurs mesures. Il balaye très large. En fait, il touche à toutes les parties de la société. Il touche à l'éducation, il touche à la justice, il touche au travail social, il touche au rôle des élus. Donc c'est un projet vraiment très large. Les médecins aussi sont concernés.
Alors dans quelle mesure, par exemple, pour parler des médecins, comment les médecins sont concernés?
Les médecins, par exemple, il y avait un des exemples qui était donné sur une femme victime de violence conjugale. Aujourd'hui, une femme est victime de violence conjugale qui va faire un certificat médical chez un médecin. Le médecin n'a pas le droit de signaler qu'elle a été victime de violence conjugale si elle ne le souhaite pas. Et on sait que dans cette problématique particulière de la violence conjugale, la première demande d'une personne victime, la plus souvent, c'est qu'on n'en parle pas. Elle accepte de faire quelque chose, mais elle ne veut pas que ça sorte de cette relation de confiance qu'elle a établie, soit avec un médecin, soit avec un assistant social. Ça, c'est le premier temps. Bien, aujourd'hui, en effet, ça ne peut pas sortir tant qu'elle ne le souhaite pas. Le médecin est tenu au secret professionnel s'il n'a pas l'accord de la victime. Demain, avec ce projet de loi, en réalité, il pourra le faire quand bien même elle s'y opposerait. Donc on peut craindre qu'il y ait un effet rétroactif, c'est-à-dire que plutôt que se mettre dans une situation où elle risque d'être débordée par cette information et, comme le disait l'assistant social, se mettre en danger et ne pas trouver de solution viable à cette situation, la personne préfère ne pas faire de certificat médical. Donc les médecins sont tout à fait concernés, que ce soit aux urgences ou aux généralistes.
C'est un des exemples, je crois qu'on a entendu tout à l'heure avec les assistants sociaux, c'est cette histoire un peu d'angélisme de ce projet de loi, c'est-à-dire il suffirait de serrer un peu la vis pour les jeunes mineurs, on va y venir, ou dans ce cas-là, il suffirait que automatiquement le médecin renvoie la procédure pour que les choses s'arrêtent, que les violences conjugales, en fait, il croit vraiment résoudre le problème des violences conjugales en mettant ça en place.
Tout à fait.
Or, c'est plus complexe.
C'est plus complexe, et surtout, j'ai un espoir qu'il ne croit pas résoudre les violences conjugales par ce problème-là. Peut-être qu'il compte les masques et faire que le phénomène soit moins apparent. C'est un peu comme la question de la prostitution, finalement. Il y a quelque temps, on a eu toute une loi sur la prostitution qui a fait que les prostituées sont moins visibles, donc la prostitution est moins visible, mais en réalité, elle est toujours aussi répandue et elle est bien plus difficile à travailler puisque on est beaucoup plus dans quelque chose de caché, de parallèle, alors qu'à des lieux de visibilité, ça permet de travailler cette question-là et de pouvoir soutenir des personnes qui voudraient sortir de la prostitution, par exemple. Mais là, on aura le même problème. C'est-à-dire qu'on risque de masquer un problème, qui est celui de la violence conjugale, en faisant que les personnes n'iront plus donner de la visibilité dans ces lieux qui peuvent exister aujourd'hui, qui sont soit les structures de soutien aux femmes victimes, soit les services sociaux, soit les services médicaux. Donc, en réalité, c'est une mode de traitement qui va permettre d'éliminer la visibilité du problème, mais certainement pas le problème qui, lui, va se renforcer.
Vous citiez tout à l'heure l'éducation nationale. En quoi l'éducation nationale est concernée?
Alors l'éducation nationale est concernée notamment parce que il est prévu par exemple que le maire soit destinataire de tous les avertissements pour absentéisme qui seraient donnés. Absentéisme aujourd'hui, hein, le passage devant l'Assemblée peut très bien élargir ce texte en disant absentéisme et comportement et tous les avertissements donnés. Donc c'est aussi le rapport qui peut exister entre les enseignants d'éducation nationale et les populations qui peut être altéré par le fait que ces passages d'informations, cette espèce de grande transparence se crée. Il y a le fait que le maire peut croiser les informations qu'il reçoit de l'éducation nationale, notamment les enfants inscrits à l'école, avec un autre fichier qui est celui de la CAF, puisque la CAF sera aussi tenue de transmettre au maire l'ensemble des personnes inscrites, et notamment des enfants bénéficiaires des aides familiales. Le croisement des deux fichiers permet par exemple de repérer une personne en situation irrégulière, un enfant en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait inscrit dans une ZUP, on va donner un exemple un peu radical, mais qui serait inscrit dans une ZUP, dans une école depuis 2 ans et qui n'apparaîtrait pas sur les fichiers CAF, on peut penser que ses parents sont en situation irrégulière. Ça permet de repérer des situations comme ça. Donc l'école devient indirectement, par le fait que ce qu'elle sait va pouvoir être transmis ailleurs dans un lieu qui est la municipalité et la mairie, où s'exercent des pouvoirs de police, on peut penser que c'est le lien qui unit l'école aux familles, par exemple, qui va être altéré.
Alors l'ANAS s'est clairement prononcée contre ce projet de loi, mm-hmm. et milite notamment à l'intérieur du collectif Hérolté, mm-hmm. contre le projet de loi dit de prévention de la délinquance. Qui c'est qu'il y a d'autres dans ce collectif et comment la bataille s'organise finalement ?
Alors, depuis 2004, donc depuis le début des mobilisations, il y a des grandes organisations syndicales, la CGT, le Sud, il y a la CFDT qui a rejoint le mouvement, et puis il y en a des plus petites, mais tout aussi intéressantes. Je pense notamment au SNEPS, PJJ, FSU... J'espère que je n'ai pas oublié une voyelle ou une consonne. Mais voilà, il y a une quantité de syndicats, on va dire, qui sont mobilisés. Et puis on retrouve aussi des associations professionnelles, et puis on retrouve aussi des associations d'enseignants, enfin des syndicats enseignants particulièrement. Il y a eu aussi, lors des appels, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature. Enfin, c'est vraiment un large champ de professionnels et syndicalistes qui sont unis.
Une fois unis, qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Comment on résiste dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui a été organisé ?
Alors, comment on résiste ? Alors, il y a des actions, on va dire, classiques, qui sont celles de la manifestation, du rassemblement, de dénonciation. Il y a aussi de la diffusion d'informations, parce qu'une vraie difficulté du projet, c'est qu'il est tellement vaste et tellement poussé qu'il paraît pas crédible. Et on a une vraie difficulté dans la conviction... pour convaincre les personnes que ce projet est bien réel. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce qu'il est devant l'Assemblée nationale, donc ça lui donne corps. Jusqu'à maintenant, ça paraissait tellement fou. Je vous donne un exemple. Par exemple, le maire peut aujourd'hui demander l'internement, l'hospitalisation d'office d'une personne qui se met en danger ou qui met en danger autrui. Mais il peut le faire qu'à partir du moment où il y a un certificat médical qui permet que la personne soit amenée sous contrainte dans un hôpital psychiatrique. Avec ce projet de loi, ça permet au maire, sans aucun avis médical, de faire procéder à l'internement d'une personne pendant 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, sans qu'il n'y ait aucun avis médical. Donc ça paraît fou. On se dit, mais il y a besoin d'un avis médical. Et quand on raconte ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à croire, tellement c'est gros. C'est tellement gros que ça paraît grotesque. Eh bien non, le grotesque, il est bien dans le texte. Donc voilà, c'est un vrai travail qu'il y a, c'est un travail de communication, un travail pédagogique pour faire comprendre que ce projet est là, existe, dans des détails, on peut en citer 50, hein, mais qui sont particulièrement dangereux.
Bon. Alors j'ai vu que même les médecins, sur le site de l'Ordre national des médecins, avaient pris position contre ce projet, notamment en citant les articles qui concernaient spécifiquement leur profession. Donc effectivement, alors le front semble assez large. Il y a eu une mobilisation le 10. Le projet est passé au Sénat, je crois.
Il est déjà passé au Sénat, oui.
Et les perspectives, on est sur quelle échéance là ?
Première lecture devant l'Assemblée à partir du 20 novembre. Ça veut dire que... De façon quasi certaine, ce projet, de toute façon, quand bien même il sera voté, c'est-à-dire qu'on va avoir la navette parlementaire, on est parti sur quelque chose qui va nous amener au moins à janvier, février, sans doute, avec un aller-retour avec le Sénat au moins. On peut penser que à partir de février-mars, il sera voté. Parce que la réalité est ce qu'elle est. Il y a une majorité, vous l'avez dit en préambule de l'émission, le thème de la sécurité et de la délinquance va à nouveau être... un des axes majeurs de la campagne présidentielle en cours. Donc on peut penser que ce texte sera voté par cette majorité. Ceci dit, un texte voté, c'est pas encore un texte appliqué. Il y a encore les décrets d'application, les circulaires, et au-delà de ça, ça nous laisse encore quelques mois. En réalité, ça va dépendre pour beaucoup de ce qui va se jouer à l'élection présidentielle. Le vrai tournant, c'est ça. Mais d'ici là, il faut faire un effet pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un véritable danger pour le quotidien, pour quelqu'un qui est en difficulté, pour quelqu'un qui n'est pas en difficulté. Toute personne est concernée par ce projet.
Oui, mais toute personne est concernée par ce fameux sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que les gens ont peut-être l'impression qu'il faut tenter quelque chose, que la situation actuelle en termes d'insécurité n'est pas favorable. Et donc, je crois que c'est aussi ça que vise Nicolas Sarkozy, c'est donner l'impression que lui-même est dans l'action et qu'il essaye quelque chose. Comment arriver à démontrer que non seulement il essaye quelque chose, mais pour avoir un autre objectif que réduire l'insécurité, et qu'au contraire, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, peut-être l'augmenter, l'insécurité.
Alors, en tout cas, par rapport au fait qu'il y a un sentiment d'insécurité, qu'il y a une demande de sécurité, oui, c'est une des évidences aussi de terrain qu'on peut entendre, c'est-à-dire il y a une demande de sécurité sociale, une demande de sécurité physique, c'est une des réalités. Que par rapport à ça, comment expliquer aux gens qui peuvent penser qu'en effet tout n'a pas été fait et que Nicolas Sarkozy apporte des réponses? Moi, j'aurais tendance à leur dire le fait que Nicolas Sarkozy fasse des grandes déclarations et des solutions, a priori, ça fait à peu près 5 ans qu'il est fait, avec un petit passage intermittent où il a été aux affaires, à l'économie, et puis un peu à l'UMP. Mais en réalité, ça fait 5 ans qu'il fait ce travail d'annonce du « ça va changer » et de l'action. Je pense qu'il y a une des choses dans lesquelles il ne faut pas se laisser attraper, c'est en effet l'illusion de l'action, c'est-à-dire agiter, annoncer, prévoir, et en réalité au final on voit que les résultats ne sont pas tout à fait là. L'an dernier on a eu la plus grosse période de violence dans ce qu'on appelle la crise des banlieues, c'était, on va dire quand même pour beaucoup grâce à Nicolas Sarkozy. Alors qu'il y a un intérêt justement à maintenir cette période de tension, on peut le penser que ça a des bénéfices. Ceci dit, moi je dirais par exemple, est-ce que vous pensez qu'un projet qui permet qu'un policier, dans le cadre d'un projet de loi prévention de la délinquance, soit fiché en mairie parce qu'il a un petit problème conjugal ou parce qu'il a un souci d'argent, de surendettement, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va réduire la délinquance? Et c'est ce que promet ce projet, c'est-à-dire que faire qu'un policier qui va voir son assistante sociale au commissariat parce qu'il a un problème de surendettement, un problème de santé, un problème de conjugal, un problème éducatif, eh bien, il va se retrouver fiché dans le cadre du projet de la loi de la délinquance, et je ne pense pas que ce soit ça qui permettra de réduire la délinquance.
Donc le 20 novembre devant l'Assemblée nationale, et il y a des mobilisations prévues d'ici là?
Eh bien, le 18 justement, la date a été un peu prévue, il y a un collectif au niveau national qui a lancé un appel à manifestation le 18 pour le retrait. Je pense que tout le monde le soutient. Je sais qu'à Montpellier, a priori, le collectif, dans sa première décision, a choisi d'organiser quelque chose, soit localement, soit en relais avec d'autres participants. Donc, je pense qu'on est encore dans les phases d'un peu de discussion, puisqu'à Toulouse s'organise aussi une grande manifestation qui a vocation à réunir large. En tout cas, je pense que quel que soit le lieu, il y aura du monde, et il y a nécessité qu'il y ait du monde contre ce projet ce jour-là.
Si on veut des infos, des adresses internet peut-être?
J'en dirais deux. Au niveau, toujours passer par Google, pour pas faire de publicité, mais au moins on est sûr que c'est le premier lien qui apparaîtra. Vous tapez anti-délation et vous tombez sur le site national du collectif national unitaire, qui donne beaucoup d'informations justement sur des aspects pratiques et en plus des informations sur le fond du projet. Et un deuxième site, c'est celui de l'ANAS, ANAS, et là vous tombez sur le site national de l'ANAS, et en effet là aussi vous allez trouver des textes sur le fond et sur les manifestations.
Bon, mais merci Laurent Puech, Marco, merci.
Merci.
Merci Jean-Jacques.
Merci à vous.
Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de chausser nos canotiers.
Vous savez, je l'ai sur la tête, alors qu'est-ce qui se passe après?
Et on va sortir comme d'habitude. On fait un petit pas de deux. C'est encore une tradition de cette émission, parce qu'on est très attaché aux traditions de cette émission.
Et c'est très étonnant, parce que les traditions, dès la première émission, j'ai jamais vu ça.
Eh oui, mais en fait, c'est ça, en fait. On est tous issus, Jean-Jacques Taveyronnet, par exemple, la tradition, il connaît. Et
si comme on le croit, on commence d'abord à renoncer à l'impossible, ensuite à tout le reste, alors nous, on le affirme, l'impossible est en cours. On se retrouve dans 15 jours pour parler de sécurité, d'insécurité et d'action sociale. Même heure sur Radio Clapas 93.5. Et quoi qu'il arrive, restez vigilants.